Bonjour chers auditeurices, vous écoutez C'est pas commun, une émission sur les arts communs ou community art en anglais. Une discipline qui regroupe les pratiques artistiques participatives, publiques et engagées. Ici, je m'entretiens avec des artistes, des architectes, des écrivains, des professionnels de musées et de structures culturelles qui œuvrent au cœur ou en faveur des arts communs. Pour ma part, je m'appelle Alexia Jacques Casanova. Je suis consultante et facilitatrice en démarches participatives et en design d'expérience dans le secteur culturel et artistique. Avant de fonder mon entreprise, Artizest, j'ai beaucoup travaillé et étudié dans le champ du community art à l'étranger, d'où ma passion pour ce courant et la création de ce podcast. C'est pas commun est une émission coproduite, enregistrée et initialement diffusée chez E-Radio, radio associative européenne. Je vous souhaite une très bonne écoute.
E-Radio présente C'est pas commun. Le community art dans tous ses états. Alexia Jacques Casanova.
L'espace public, ou ce qu'il en reste, est un terrain de jeu sans limite, ou presque, pour bon nombre d'artistes, et notamment celles et ceux que nous recevons ici dans C'est pas commun. L'espace public, grignoté d'un côté par la logique capitaliste, ses publicités omniprésentes, l'usage tarifé de chaque mètre carré disponible, où il faut désormais consommer pour pouvoir s'arrêter un instant. L'espace public aussi policé, voire policier, afin de nous prémunir d'un danger devenu permanent et permettant au régime d'exception de devenir la règle. Je parle bien entendu des états d'urgence successifs que nous traversons et auxquels nous nous habituons presque confortablement depuis 2005. Face à ces restrictions, parfois pavées de bonnes intentions, des voix s'élèvent, des chemins se fraient, des rituels se créent. La compagnie Rara Wolib fait partie de ces collectifs qui œuvrent à la réappropriation de l'espace public par l'intervention artistique et nous invite également à les y rejoindre. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui deux membres de ce collectif mouvant, Julien et Mélio. Bonjour à tous les deux et bienvenue.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, pour commencer et poser un peu le paysage, pourriez-vous nous présenter la compagnie Rara Wolib? Quand est-ce qu'elle émerge? Où émerge-t-elle et qu'est-ce qui la définit aujourd'hui?
Alors la compagnie Rara Wolib, c'est, comme vous le disiez, un collectif, une aventure humaine qui a commencé en 2009 à Marseille, un petit peu avant. Ce projet, en fait, a commencé par un projet musical autour de rituels haïtiens. Moi, je revenais d'Haïti, 3 années passées en Haïti, à Port-au-Prince, et on a travaillé autour du rara haïtien. Et je pense que ce travail musical, qui est assez spécifique, où beaucoup de musiciens ne jouent qu'une seule note, va déterminer beaucoup ce que va devenir cette compagnie, où chacun n'est qu'une note et en fait, personne ne peut exister sans le collectif, dans une polyrythmie, une polyphonie de notes. Et donc, ça émerge à Marseille, ça c'est pas anodin aussi, Marseille, cette ville où beaucoup de choses sont possibles, où les failles, les interstices sont nombreux et plutôt faciles à infiltrer. Rara Wolib, c'est aussi un groupe de personnes, beaucoup de gens qui ne viennent pas du théâtre, des gens qui ont des personnes qui ont des parcours très divers de vie, des gens qui peuvent être infirmières dans le milieu psychiatrique, psychologues en milieu carcéral, cuisiniers, constructeurs, musiciens, éducateurs, photographes, voilà, vraiment des gens qui viennent de plein d'endroits différents et qui se rassemblent autour d'un projet théâtre, enfin musical d'abord, puis qui deviendra théâtral, mais toujours dans un lien très intime avec l'espace public, toujours dans cette perpétuelle recherche, réflexion, expérimentation de ces formes, de ces essais dans l'espace public. Alors, et ce qu'il a défini aujourd'hui.
Oui. Oui. Et donc, comme la majorité des compagnies, des collectifs qu'on peut avoir l'occasion d'accueillir ici dans C'est pas commun, vous avez un fonctionnement assez singulier, vous en parliez à l'instant. La compagnie est composée de personnes au parcours varié, vous parliez ici de cuisiniers, de personnes qui travaillent dans le soin, auxquelles s'ajoutent, si j'ai bien compris, ce que vous allez appeler des collaborateurs de passage. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur la composition, le fonctionnement? Est-ce qu'il y a un noyau dur autour duquel gravitent d'autres personnes? Comment est-ce que vous vous organisez au quotidien avec autant de voix, de notes différentes et singulières?
C'est vrai que cette compagnie, y a un cœur, vraiment un noyau qui est quasi le, enfin qui est quand même, il y a beaucoup de personnes qui sont les mêmes encore depuis 14 ans, aussi avec des personnes qui ne sont pas vraiment parties mais qui participent à certains projets et pas à d'autres, en fonction des moments de vie. En fait, c'est un espace qui est assez finalement permissif. On peut rentrer, sortir, ça c'est assez important. C'est aussi en fonction des moments de vie. On a commencé, on avait 30 ans. Aujourd'hui, pour certains, et aujourd'hui, on a plus de 40 ans, on a des enfants, donc évidemment, les enjeux ne sont pas les mêmes, les disponibilités, les façons de faire ne sont pas les mêmes, donc ça aussi, c'est des choses qu'on prend, auxquelles on fait très attention et on prend en compte. Les collaborateurs de passage, ben oui, en effet, ça peut être, enfin, des collaborateurs de passage, juste des personnes qui viennent s'aventurer. Parce que on parle beaucoup d'aventure. En fait, c'est une aventure humaine. Donc, c'est aussi des moments où on se réunit, on partage un bout de chemin ensemble. Et puis, chacune repart dans ses propres projets et puis nous rejoint. Voilà. Donc, il y a vraiment quelque chose d'assez circulant. Je pense vraiment toujours à l'image des flux, de rivières, d'affluents, de confluents. Et je pense que c'est une belle image pour donner sa composition et son fonctionnement.
Un fonctionnement liquide, mouvant.
Exactement.
Donc, à vos débuts en 2009, si j'ai bien compris, vous investissez la cité phocéenne de manière sauvage. Vous hackez littéralement les espaces en invitant les publics à des déambulations théâtrales dans les rues, mais aussi autour et dans des monuments, voire des sites interdits. Je serais curieuse de savoir ce qui vous inspire dans cette figure du hacker. Qu'est-ce qui vous motive à l'époque et peut-être encore aujourd'hui à développer votre pratique au-delà des zones où cela est permis?
Alors, c'est vrai que la figure du hacker, je pense qu'elle vient, après. En fait, peut-être qu'on on pratique d'abord. En effet, dans les années, au tout début de la compagnie, hein, je crois que c'est ce qui devient aussi constitutif de ce collectif. C'est ces aventures multiples qu'on vit, où on crée des grandes déambulations dans la ville à Marseille. On ferme les avenues à la circulation. On réouvre des parcs la nuit. On s'empare de monuments qu'on transforme de manière temporaire. Tout ça de manière totalement sauvage, donc sans autorisation. Évidemment, ça nous amène à développer aussi un savoir-faire, hein, parce qu'on est, on prend la responsabilité d'eux. Et qu'est-ce qui nous motive? Je crois que c'est vraiment justement cette aventure-là, enfin le fait de faire tomber des barrières, d'ouvrir des nouvelles portes, de donner aussi accès à une poésie urbaine. Finalement, c'est ouvrir les chemins de traverse, transgresser. Et je crois que cette transgression, c'est aussi constitutif de pouvoir dépasser ce qui est permis. C'est aussi une façon de se constituer et de se positionner. Cette transgression, après, enfin la question du hacker, justement, elle vient après et elle vient vraiment à un moment où justement faire de l'illégal, c'est une chose, mais on se rend vite compte que faire des choses illégales, amener des gens dans l'illégalité, c'est aussi finalement réduire le champ des possibles pour d'autres personnes. Très vite, en fait, on se rend compte que quand on travaille avec des personnes qui sont dans des situations sociales, psychiques, administratives, complexes, en fait, finalement, on leur ferme cette porte-là. Donc, c'est ça aussi qui nous amène à questionner la figure du hacker, c'est-à-dire comment, ensuite, là, dans les dernières années, comment, pour justement inclure un maximum de gens, on travaille plus uniquement à l'endroit de l'illégalité, mais plus à un endroit où on contourne la réglementation tout en restant dans la légalité, pour être le plus inclusif possible.
Oui, et on reparlera de ces contournements et de ces stratégies de contournement un petit peu plus tard. La convivialité, la citoyenneté et la ritualisation, vous en parliez en introduction, ce sont ces thématiques qui nourrissent vos projets et on les retrouve dans une de vos recherches création, recherche action création presque j'ai envie de dire, intitulée Vertige. Pour Vertige, vous proposez des créations in situ et ce que vous appelez des protocoles de recherche partagés. Et dans ces protocoles, vous mêlez des artistes et des partenaires issus de la société civile. Est-ce que vous pourriez dépeindre à nos auditeurs, à nos auditrices, à quoi ressemble ce projet Vertige, quelle forme il prend et surtout où est-ce qu'il en est aujourd'hui?
Alors, c'est toujours difficile de décrire un projet en cours. Vertige, ça part d'un questionnement sur... Enfin, ça part des questions... Ouais, bon, on en parlera sûrement après, mais ça parle d'un questionnement autour des luttes, du rôle de l'artiste dans les luttes, et aussi de... Enfin, voilà, tout un questionnement sur l'efficacité ou l'inefficacité des formes de manifestation qu'on a aujourd'hui, et savoir quel type d'actions, de nouvelles actions collectives, qu'est-ce qui existe en fait, qu'est-ce qui existe et qu'est-ce qui serait à créer. Voilà, donc ça part vraiment de ces réflexions-là, dans un rapport en fait, à questionner aussi cette relation qu'entretient l'artiste et la société civile. Donc ce projet Vertige, ça part de ces questionnements-là et ça part aussi surtout d'une grande aventure à laquelle on participe et dans laquelle on est très impliqué, qui est l'après-m. Donc on en parlera juste après. Et c'est cette expérience à l'après-m qui est constitutrice en fait de tout ce projet. Quand on parle de protocole de recherche partagée, bah c'est aussi ouvrir nos espaces de création, bah la société civile de manière générale. Aux habitants, à des travailleurs, travailleuses, à l'espace public, ouvrir aussi nos dispositifs de création dans l'espace public, essayer de partager au maximum. Alors c'est très difficile de le décrire comme ça et d'en trouver une formule générique, mais c'est vraiment c'est essayer de savoir comment chacun, chacune peut avoir un regard sur ces questions-là, quelles sont les forces de chacun aussi, c'est très important, c'est de savoir quelles sont ce que chacun, chacune peut apporter en fait dans ces réflexions-là.
Et presque le mot projet, je ne sais pas s'il est forcément le plus juste, c'est un questionnement permanent qui permet de voilà à quoi ressemble ce questionnement vertige, j'ai envie de dire, et on se questionne avec toutes ces réflexions. Mm-hmm. et voilà.
Mm-hmm. Alors justement, pour l'illustrer un petit peu, vous avez mentionné l'après-m, une initiative dont nos auditeurs, nos auditrices ont peut-être déjà entendu parler ou pas. Donc à ce titre, je vous propose qu'on écoute un extrait d'un reportage produit par l'association Make Sense et disponible sur YouTube.
Je suis arrivé un peu par hasard ici en tant que militant étudiant, militant de jeunesse à l'époque, parce qu'un ami, un collègue m'a dit « Sylvain, il y a un McDo des quartiers nord qui va pas tarder à fermer, ils vont perdre leur emploi, faut aller les défendre. » Et moi au début je me dis « Mais attends, un McDo qui ferme c'est une bonne chose, je suis pas là pour défendre McDo quoi. » Et finalement j'y vais un peu reculons, en traînant des pieds, et j'ai découvert un truc de fou, un truc de fada comme on dit chez nous. Quand on a un truc à fêter, on a des petits réflexes. Genre déjà, on va mettre de la musique, on va se mettre à chanter, etc. Mais aussi, on va faire un barbecue. Ça arrive très très vite, le barbecue. Quand on a un truc à lancer, on organise un concert. On a eu 3, 4... on devait lancer un rachat d'un McDo et lever 1 250 000 euros, on a fait un concert. On a dû envoyer un conteneur de médicaments en Algérie, on a fait un concert. Et le sport aussi. Genre très souvent ça finit en petit foot ou on a organisé un gros tournoi de foot quand même il y a quelques jours. Il y a le sport qui tient beaucoup de valeur, la musique qui partage beaucoup de valeur. Et en général en fait c'est ça je pense, c'est avoir des trucs qui nous unissent et qui sont un peu universels quoi.
L'après-m, c'est donc ce McDonald's des quartiers nord de Marseille qui en 2019 est placé en liquidation judiciaire, puis réquisitionné par les salariés pour en faire un lieu de distribution de colis alimentaires. On entend dans cet extrait Sylvain qui évoque tour à tour l'élan citoyen et collectif, le besoin ou le médium, dira-t-on, de la convivialité musicale, sportive, bref, créative ou générative. Vous faites partie de celles et ceux qui ont mis la main à la pâte de cet ouvrage collectif qu'est l'après-m. Est-ce que vous pourriez nous raconter en quoi a consisté votre intervention ?
Alors ça a commencé, on s'est retrouvés notamment avec Meio, avec Pierrick aussi, avec plusieurs personnes de la compagnie. On est arrivés en 2020, justement vraiment au moment, juste après quelques mois après la réquisition en fait des anciens employés qui avaient récupéré les murs, enfin le bâti, pour le transformer en plateforme d'aide alimentaire. Et puis on a commencé à rencontrer un peu tous les anciens employés, vraiment partager des moments de réunion. Et la première intervention qu'on a faite, elle vient un peu, en fait, elle se fait, elle En fait, au milieu de, il y a plein de collectifs aussi qui débarquent, des mouvements assez jeunes, type Extinction Rebellion, Alternativa, qui aussi dans une approche de vouloir aussi rallier ça à une cause plus large, alors que on trouvait justement qu'il y avait vraiment quelque chose de très très spécifique. En fait, c'était un endroit, je me rappelle de quelqu'un, d'un militant qui avait dit si la lutte meurt ici, elle renaîtra ailleurs. Et en fait, on s'est dit, mais en fait on ne se comprend pas. Et c'était justement dans le rapport, parce que là les gens avaient travaillé depuis 1992 dans cet espace, dans ce lieu-là, avaient construit cet endroit comme une place du village. Et donc la première intervention qu'on a faite, ça a été de transformer ce lieu et de rassembler pas mal d'amis artistes et transformer ce lieu et de marquer le coup en transformant le bâtiment. Donc en fait, en l'espace de 3 jours, on a repeint tout le bâtiment, transformé l'enseigne et utilisé l'enseigne, démonté l'enseigne McDo et la reconfigurer pour écrire l'après-m. Et tout ça, dans une co-création avec les anciens employés. Ça a été notre point de départ et qui a scellé notre amitié, qui a rendu cette aventure plus collective. Et après, on est rentré dans le CA et puis on a commencé à organiser les événements et à mettre en récit cette lutte. Organiser des événements à chaque fois, comme disait la Sylvain dans cette interview, à chaque fois, c'est comment on crée des espaces de convivialité, des fêtes, des moments artistiques, et comment à chaque fois la lutte, à travers ces moments des kermesses aussi pour les enfants, mais comment on arrive à rassembler et mettre en récit cette lutte, et en fait de pouvoir raconter à travers ces événements tout ce qui se passe à l'intérieur de ces murs et autour dans le quartier. Donc ça a été vraiment notre, en fait, finalement on a utilisé tout notre savoir-faire, nos outils de théâtre, nos outils plastiques, nos capacités organisationnelles, notre amour des fêtes, de la cuisine et de la convivialité pour accompagner et puis créer ces choses ensemble.
Et on se rend compte aussi que c'est quelque chose, c'est une histoire en fait, ce lieu, et que ces pratiques artistiques, ces événements, en fait, ils existaient depuis toujours. Il y avait des kermesses, il y avait des concerts à l'intérieur du lieu, et que c'était une continuité par rapport à toute cette histoire et par rapport à toute cette lutte.
Et surtout, je rajoute quelque chose de très important. C'est en fait, on s'est très vite rendu compte, je pense que ce qui nous a différencié aussi de beaucoup de ce qui différencie ce lieu de beaucoup d'a priori, en fait. Il y a beaucoup d'a priori sur McDo, on va le faire tomber. Mais non, pas du tout, en fait. Les gens, les habitants du quartier, ils avaient pas de problème avec McDo. Ils étaient dans une lutte avec McDo pour leurs droits. Mais par contre, McDo leur avait permis, leur avait donné finalement un certain ascenseur social, les avait aidés à former. Enfin, c'était aussi un peu tout le dilemme. C'était assez drôle comment cet endroit-là racontait aussi, raconter d'autres problématiques qui sont plutôt la question de l'intégration et de la capacité de notre administration, des grandes entreprises françaises à pouvoir vraiment faire bénéficier à toutes et tous de cet ascenseur social. Et c'était étrange que ce soit McDo en fait qui ait permis ça.
Est-ce que c'est McDo les personnes qui ont fait vivre ce lieu à travers effectivement cet outil de travail qui était là, mais...
et qu'ils se c'était sont des,
voilà, les, ouais. Les premiers hackers, c'était eux. En fait, on s'est juste mis dans la continuité de leur hacking. C'est-à-dire, on a continué ce qu'ils avaient commencé depuis les années 90.
Eh bien, avant de poursuivre sur les méthodes de hacking dans l'espace public et dans les anciens McDonald's, je vous propose qu'on fasse une pause musicale. On écoute Hécatombe du groupe Vernipolis.
Man. brillons quand même le soir qui tombe pour qu'on les aime. Nos yeux que tombent. Coup d'œil, on y goûte devant le seuil, accueillir que l'on le veuille, qu'on en doute. Quand traîne la peine, la peine sans la requête, le jour et la nuit, le précurseur, sous comme on crie auprès. Les hommes et guides, le salut à tout le monde personne.
Radio.
Community Art.
C'est pas commun.
Je suis avec Julien et Mélio de la compagnie Rara Oulib et on parlait donc de rituels, de convivialité, mais aussi de hacking autour et dans les espaces plus ou moins publics. Je voudrais revenir un petit peu donc sur ce projet de l'après-midi dont on parlait avant la pause. Vous avez commencé en marge, Rara Oulib, vous avez franchi plus d'une fois, vous le disiez, potentiellement les limites de la légalité. Et puis, comme souvent, vos actions, vos propositions sont parfois, en tout cas, ensuite reconnues et soutenues par des institutions, par des tutelles. De la même manière d'ailleurs que l'après-M, par exemple, a été racheté par la ville de Marseille. Est-ce que c'est un avantage, ce genre de développement, pour vous en tant qu'artiste, en tant que collectif, que compagnie? Comment est-ce qu'on reste pirate lorsqu'on est reconnu, encouragé et soutenu par des fermiers, si je reprends la métaphore de Dave Hickey?
Ça a été plusieurs fois des questionnements. Notamment, oui, quand en effet, on est passé de l'époque où, dans les années 2010-2012, on faisait uniquement des événements dans l'illégalité dans l'espace public. On a été reconnu par l'institution, porté ensuite par toutes les structures culturelles et les tutelles. En fait, il a fallu continuer justement. Enfin, la grande question, c'était comment on garde cette tension, qui nous donne du souffle, même quand on continue et quand on commence à rentrer dans des chemins plus balisés. Et ça a été justement je pense qu'on a gardé cette âme-là et on a juste continué à pousser les limites. C'est-à-dire, à partir du moment où on rentre dans une institution, en fait, on va commencer à dialoguer avec elle pour justement voir à quels endroits, justement sortir des chemins balisés, mais en collaboration avec ces institutions. Ce qui n'a pas été forcément toujours facile, mais c'est très intéressant de voir comment, en fait, tout ça, ça peut bouger. Et comment aussi on peut transmettre ce virus de justement de la transgression dans les dans des sphères plus officielles.
Mmh. Aux prémices de votre recherche Action Vertige, vous aviez posé plusieurs questionnements, ou des problématiques en tout cas, auxquelles le projet était censé répondre, explorer. Parmi ces questionnements, parmi ces problématiques, il y avait la suivante. Quelle est la place de l'artiste dans les luttes citoyennes? Est-ce que vous avez trouvé une réponse à cette question?
Non, je pense pas trouver de réponse.
Des éléments, peut-être?
Je pense pas qu'il... Oui, des éléments. La place de... L'artiste, pour moi, j'ai du mal à le considérer comme un... c'est une façon d'être, mais c'est pas un statut pour moi. Je pense dans notre approche, on reste quand même citoyen, citoyenne avant tout, et on vient avec des savoir-faire, et je crois que c'est au même titre, quand on se rencontre, quand on commence à partager des choses et à créer ensemble, tout le monde vient avec son savoir, son parcours. Donc je pense que en effet, l'artiste dans une lutte citoyenne, il va peut-être en effet amener une capacité à mettre en récit de la poésie, parce que je pense qu'on en a besoin. Parce que en fait, je voyais notamment à l'après-midi des luttes qui durent très très longtemps. En fait, on s'essouffle à un moment. Ça s'essouffle, et en fait, le seul moyen de pouvoir prolonger, continuer, c'est de créer ces espaces de respiration, ces espaces de création, ces créations justement qui nous permettent de nous dépasser. Ce qui est intéressant aussi dans ces œuvres-là vivantes, c'est leur dimension éphémère, c'est-à-dire qu'on sait qu'on va s'activer là pendant quelques jours et on va produire une forme qui va surgir et qui restera dans les mémoires, dans les corps. Et je pense que c'est pas la même temporalité que les luttes. C'est justement ces petits souffles qui émergent, qui créent de la beauté, qui créent beaucoup de fierté aussi. C'est très important, la fierté. Donc, tout le monde est fier d'avoir... une œuvre d'art, en fait, c'est quelque chose finalement, notamment collective, c'est quelque chose qui apparaît, qui est réalisé, qui apparaît et en fait qui dépasse, qui nous dépasse tous. Et je pense que c'est ça. C'est en fait, on se met tous au service d'une œuvre qui nous dépasse.
Eh bien, ce sera le mot de la fin pour cette première partie, en tout cas, parce qu'on vous retrouve donc dans la prochaine émission pour poursuivre cette discussion. À la technique aujourd'hui, c'était encore Théobald que je remercie. Et donc, à très bientôt, chers auditeurs, chères auditrices.
Euradio vous a présenté C'est pas commun, une émission sur le community art que vous pouvez réécouter en podcast sur euradio.fr.
www.euradio.fr.
Merci d'avoir écouté C'est pas commun. Pour aller plus loin, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux et notamment Instagram @c'est pas commun podcast. À bientôt.